le magazine des Nations Unies.
À ces jours à la fois fructueux et très actifs, c'est celui qu'a effectué en RDC le secrétaire général de l'ONU pendant 3 jours, soit du 31 août au 2 septembre et de Goma à Kinshasa en passant par Beni. Antonio Guterres a eu le temps de communier avec les populations et de s'entretenir avec différents acteurs politiques et sociaux congolais. Sécurité, Ebola, avenir de la MONUSCO et situation politique du pays hôte ont été au menu des discussions avec les interlocuteurs congolais. République démocratique du Congo, les violations des droits de l'homme annoncent en juillet 2019 par rapport au mois précédent, 482 cas contre 410, c'est ce qu'indique les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les détails dans ce magazine. 156 décès d'Ebola parmi les personnels de santé depuis le début de l'épidémie dans les Nord Kivu et à Ituri. Les ministères de la Santé, l'OMS, l'UNICEF et leurs partenaires opérationnels mettent en place des mesures standardisées, des préventions et des contrôles des infections pour le personnel soignant dans le cadre de la riposte. Ce sont là les principaux titres de ce magazine. Les développements dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce 389e numéro des magazines des Nations Unies. Comme nous l'avons dit, nous consacrons cette émission essentiellement à la visite de travail du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres a entamé le samedi 31 août une visite de 3 jours en RDC par la ville de Goma. L'étape de Goma et de Beni dont s'est condensé de Jean-Pierre Elali Koko.
Arrivé à Goma le samedi 31 août, le secrétaire général des Nations Unies a été accueilli par le gouverneur du Nord Kivu. Mais Antonio Guterres avait hâte à se rendre le dimanche 1er septembre à Beni, puis à Mangina, petit village agricole à 30 km de Beni. À Beni, M. Guterres a promis que les casques bleus continueraient leur appui au FRDC contre les groupes armés. « Nous ferons tout pour mettre fin au fléau de l'insécurité dans cette région », a-t-il déclaré. À Mangina, premier épicentre de la maladie à virus Ebola, le secrétaire général et sa suite ont d'abord rencontré entre les représentants de la composante humanitaire avant de se rendre au centre de traitement Ebola qui accueille les patients suspectés d'avoir contracté la maladie. Entretien avec le personnel soignant dont il a apprécié le courage et le travail sur le terrain, puis cérémonie de remise des diplômes aux survivants d'Ebola suivie de la visite de la crèche qui abrite les enfants dont l'un des parents est suspecté ou atteint de la maladie à virus Ebola. Enfin, M. Guterres a visité le camp de vie avec ses 31 tentes et 200 personnes travaillant pour les comptes des humanitaires.
À l'étape de Kinshasa, le secrétaire général des Nations Unies a rencontré les présidents de la République, Félix Tshisekedi, le premier ministre Ilunga Ilunkamba, la présidente de l'Assemblée nationale Jeanine Mabunda. Aux uns et aux autres, Antonio Guterres a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo. Il a aussi également accordé une série d'audiences à la classe politique, la coalition au pouvoir FCC-CACH et l'opposition représentée par la plateforme Lamuka et aussi aux représentants de la société civile. Compte rendu avec Jean-Pierre Elali Koko.
Satisfaite, tentée d'optimisme, c'est l'attitude que la délégation de la coalition au pouvoir a présentée à l'issue des échanges avec le patron des Nations Unies. Elle a été conduite conjointement par Nehemi Moulania, coordonnateur du FCC, et Jean-Marc Kabound, celui du CACH. Jean-Marc Kabound s'est réjoui de l'alternance politique à l'issue des élections qu'il juge démocratiques.
Avec l'alternance politique que notre pays a vécue, c'est inédit dans toute la région.
Ce n'est pas l'avis de Lamuka, la plateforme que coordonne Jean-Pierre Bimba, le leader du MLC. Elle a été conduite par 6 personnes à la tête desquelles Pierre Lumbi. Ce dernier a insisté sur la réforme des institutions parce que, selon lui, les élections ont été un gâchis.
Pour continuer les contacts afin que nous puissions voir comment réaliser des réformes institutionnelles qui nous permettent de ne plus revivre ce que nous avons vécu en 2018, notamment la réforme de la Cour constitutionnelle. institutionnelle, la réforme de la CENI, mais nous estimons que ces réformes institutionnelles ne doivent pas se faire de façon unilatérale. Elles doivent se faire avec toutes les forces politiques représentatives de la nation.
Néanmoins, les deux délégations sont d'accord sur la vision sécuritaire présentée à Antonio Guterres. Pour Némi Mouilania du FCC, la MONUSCO doit faire preuve de plus d'efficacité.
Il s'est posé la question de l'efficacité de la MONUSCO dans certaines zones de conflit, particulièrement dans les territoires de Béni, avec l'apparition du phénomène dangereux du terrorisme, de l'ADEF. Et c'est une question qui avait amené le gouvernement, plusieurs reprises, de demander le redimensionnement des troupes de la MONUSCO pour que l'essentiel des efforts soit focalisé là où il y avait un danger réel contre les populations congolaises.
La MUCA demande aussi l'implication de la communauté internationale. Pierre Lumbi.
Il nous a dit que les Nations Unies vont tout faire pour renforcer les brigades spéciales afin d'aider notre armée à mettre fin à cette situation d'insécurité.
Selon les deux délégations, le secrétaire général s'est réjoui des échanges et promis le soutien de la communauté internationale à la République démocratique du Congo.
Les confessions religieuses ont représenté quant à elles un mémo à Antonio Guterres, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, au micro de Jean-Pierre Eladi Coco.
C'était l'occasion pour ce groupe de présenter un mémo circonscrit sur quatre points, paix, sécurité, démocratie, développement et crise humanitaire. C'est une brève description de la situation avec des recommandations faites aux Nations Unies pour accompagner le pays à aller de l'avant. Sur la démocratie, on a reconnu les avancées, l'alternance qu'on a au sommet des États, les élections, bien que ça ait été au prix de beaucoup de sacrifices. Maintenant, on s'est relevé ce qu'il faut améliorer, les conditions d'organisation des élections. Il y a le cycle électoral qui n'est pas encore fini, les droits de manifestation publique. Il y a déjà un paquet à faire, mais encore à faire. Voilà globalement ce qui a été dit. On a demandé les mémos pour en prendre davantage connaissance. Il a réagi à quelques interventions, entre autres la demande qui lui a été faite comme président d'une institution importante au niveau mondial de veiller à l'aspect éthique parce que la crise dans le monde comme en RDC, c'est d'abord une crise éthique.
Autre chose à présent, la situation des droits de l'homme s'est détériorée en juillet 2019 avec 482 violations contre 410 en juin dernier, affirmation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans son dernier rapport publié le 2 août. D'autres précisions avec Honoré Missinga Kalala.
Cette hausse des violations des droits de l'homme entre juin et juillet 2019 reflète essentiellement une augmentation du nombre d'atteintes attribuables aux groupes armés, précise le Bureau conjoint. Il est aussi du fait du nombre des violations commises par les forces armées de la RDC. Ainsi, sur l'ensemble du territoire congolais, le BCNUDH a documenté 48% des violations attribuables aux agents de l'État, dont les exécutions extrajudiciaires de 31 personnes, parmi lesquelles 10 femmes. Sur les 52% d'atteintes dont sont responsables les groupes armés, les exécutions sommaires ont touché 87 personnes, dont au moins 13 femmes et 14 enfants. Sur le plan géographique, le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme indique que plus de 97% des violations documentées en juillet dernier ont été commises dans les provinces affectées par les conflits. Dans les provinces non affectées, 14 violations des droits de l'homme ont été documentées pendant la même période, soit 3% du total. Et dans le domaine des libertés fondamentales liées à l'espace démocratique, 38 violations ont été documentées sur l'ensemble du pays, soit une diminution par rapport au mois de juin 2019 avec 55 cas.
Le ministère de la Santé, l'OMS, l'UNICEF et leurs partenaires opérationnels viennent de mettre en place des mesures standardisées de prévention et de contrôle des infections pour les personnels soignants dans le cadre de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. Ces plans ont été lancés jeudi à Kinshasa. Des précisions avec le président de la commission chargée de la prévention contre cette maladie, le docteur Samuel Mangala, est au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
Quels sont les outils sur lesquels on a travaillé? Vous avez là les modules sur l'introduction à la prévention et contrôle des infections, c'est ce document qui a été produit, qui va servir à harmoniser une information qui soit uniforme dans toutes les sous-coordinations. Et la force avec cet outil, il ne sera pas seulement utilisé pendant l'épidémie, même après l'épidémie ou dans des zones qui sont encore indemnes. Cet outil peut être utilisé. On a également eu à travailler sur les modules sur l'hygiène respiratoire, l'hygiène de main, la sécurité des injections, donc tout ce qui est énuméré là, ce sont là les modules harmonisés qui existent maintenant dans ces toolkits. On a également travaillé sur les affiches parce qu'on avait noté que chaque intervenant pouvait avoir ses affiches avec des logos différents. Mais ici, nous avons harmonisé, il y a des affiches standardisées avec le même message pour ne pas créer de la confusion. On a également travaillé sur les guides d'utilisation de ces outils. Donc, un plan de dissémination a été mis en place pour mettre à la disposition des utilisateurs tous ces outils et leur montrer comment les utiliser.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Plus de la moitié des enfants réfugiés à travers le monde ne sont pas scolarisés, c'est ce que révèle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans un rapport publié il y a plus d'une semaine. L'Agence des Nations Unies lance un appel au gouvernement des pays du monde afin qu'ils mettent en œuvre des politiques d'insertion scolaire de près de 4 millions d'enfants réfugiés. Fabien Fèvre, chargé des relations extérieures, HCR, s'entretient à ces sujets avec Jean-Pierre Elali Coco.
Fabien Fèvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé des relations extérieures au HCR ici en République démocratique du Congo. Nous allons parler du dernier rapport du HCR concernant justement la situation de scolarisation des enfants réfugiés. Alors, la première question, c'est de savoir la situation de l'éducation des enfants réfugiés dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Comment cela se présente?
Alors, selon ce rapport publié par le HCR, donc l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de la moitié des enfants réfugiés à travers le monde ne sont pas scolarisés, ce qui présente environ 3,7 millions de personnes. Pour citer un autre chiffre, seuls 24% des enfants réfugiés ont accès à l'éducation secondaire contre 84% au niveau mondial. Comme vous le constatez, l'écart entre les possibilités d'accès des réfugiés et des non-réfugiés à l'enseignement secondaire est très large. Et la RDC n'échappe pas à cette règle.
Comment se présente précisément la situation en République démocratique du Congo?
Si on prend l'exemple du cas des réfugiés sud-soudanais en RDC, sur plus de 6000 réfugiés en âge de fréquenter l'école secondaire, 92% ne sont pas scolarisés. Donc il faut dire aussi qu'une large part du problème peut être attribuée au manque d'écoles secondaires dans beaucoup de régions où la RDC accueille des réfugiés, ce qui rend impossible le passage au niveau secondaire. Et lorsqu'il y a des écoles qui existent, y entrer relève d'un certain défi, même pour la population autochtone.
Alors, comment expliquer que le manque d'éducation pour les enfants de réfugiés date de plusieurs années? Pourquoi est-ce que le HCR fait un rapport sur ça aujourd'hui?
Alors, en effet, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le quatrième rapport que le HCR publie. Et comme vous le savez, il y a chaque année de plus en plus de déplacements forcés dans le monde avec des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées. Et ce qui crée de profonds écarts, en fait, du point de vue de l'accès à l'éducation entre les réfugiés et les non-réfugiés. Et à travers ce rapport, le HCR essaie de montrer que la chute de la fréquentation scolaire des réfugiés entre le primaire et le secondaire est la conséquence directe du manque de financement pour l'éducation des réfugiés.
Alors, vous dites que près de 4 millions d'enfants réfugiés ne vont pas à l'école, selon bien sûr ces rapports. Quelles pistes de solutions le HCR propose-t-il pour les insérer, bien entendu, dans les circuits scolaires? Qu'est-ce que le HCR propose?
Donc le HCR apporte déjà des solutions pour soutenir l'éducation des réfugiés en veillant à ce qu'ils soient intégrés dans le système éducatif congolais où ils pourront accueillir des qualifications reconnues. De plus, le HCR construit et réhabilite des écoles qui bénéficient d'ailleurs également aux écoliers autochtones.
Où précisément dans les pays?
Donc principalement là où nous avons des populations de réfugiés, c'est-à-dire au niveau du Nord Oubangui, Sud Oubangui, Bawele.
Ça c'est pour les réfugiés centrafricains?
Tout à fait. Là où nous avons des réfugiés sud-soudanais, Owele et Bawele, et également là où nous avons des réfugiés burundais.
Burundais, c'est à Kandelou-Senda, c'est dans le sud Kivu.
Exactement, dans le sud Kivu.
En RDC, le HCR a accordé récemment des bourses d'études supérieures à une cinquantaine d'étudiants réfugiés. Comment alors cette agence des Nations Unies s'occupe-t-elle de l'éducation primaire des enfants réfugiés en RDC? Comment ça se passe?
Donc juste pour venir sur les bourses qui ont été accordées à des réfugiés, donc c'est vrai que le HCR accorde une importance primordiale à l'enseignement supérieur, qui peut jouer un rôle moteur dans l'identification de solutions durables. Et c'est vrai que les réfugiés ont besoin d'aide supplémentaire souvent pour faire face au coût de ces études-là. Et à travers ce programme de bourse, donc c'est un instrument majeur qui pourra leur permettre de poursuivre des études supérieures.
Et en ce qui concerne l'enseignement primaire,
pour l'HCR, l'éducation joue un rôle crucial au sein de son mandat. Et tout comme partout en RDC et dans des pays limitrophes où on accueille des réfugiés, où les gouvernements accueillent des réfugiés, le HCR travaille avec des partenaires pour assurer donc la protection et une éducation de qualité pour ces enfants.
Ceci vaut tant pour les réfugiés congolais, les enfants réfugiés congolais qui se trouvent dans d'autres pays, par exemple dans des pays limitrophes comme au Rwanda ou encore en Angola.
Tout à fait, donc c'est des programmes qui sont adaptés forcément au contexte des pays, mais nous renforçons dans ces pays-là les capacités des enseignants, par exemple. Nous construisons des espaces d'apprentissage, le tout en partenariat avec des acteurs clés de l'enseignement.
Par rapport à ces rapports qui a été publié, est-ce que vous avez un autre élément à ajouter?
Je voulais dire, oui, donc que le HCR donc, veut montrer à travers ce rapport que la fréquentation scolaire, le manque de fréquentation scolaire de ces réfugiés au niveau primaire et principalement secondaire est la conséquence directe du manque de financement. Donc à travers ce rapport, le HCR appelle le gouvernement, le secteur privé et les différents donateurs à accorder un soutien financier spécifique pour l'éducation des réfugiés dans le monde.
Fabien Fèvre, je vous remercie.
Merci.
Cette page des nouvelles en bref par des Kalemis dans la province du Tanganyika. 15 matelas, 10 couvertures et 13 sandales, dont de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, à 13 femmes détenues de la prison centrale des Kalemis. La cérémonie de remise des cédants d'une valeur de $630 américains a eu lieu le week-end dernier à la maison carcérale. La ministre provinciale des droits humains, prévoyance sociale, genre, famille et enfants étaient présentes. Cet appui est intervenu après la visite conjointe de la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO et des autorités de l'administration pénitentiaire de Kinshasa. Dans les mêmes registres, cette fois, nous sommes au Sud Kivu. 3 journées de consultations et de traitements médicaux gratuits ont été organisées cette semaine en faveur des prisonniers de la prison centrale Mulungé d'Uvira souffrant du paludisme. C'est une activité humanitaire réalisée par l'ONG AMC, Aide Médicale Congo, en collaboration avec les conseils de la section de l'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est là, dans le cadre du droit d'accès aux soins de santé en milieu carcéral. La Direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne en République démocratique du Congo octroie au HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, un financement de 3 millions d'euros. Ce financement vise à renforcer l'aide aux réfugiés sud-soudanais et aux familles d'accueil dans les provinces du Haut-Uele et de l'Ituri en RDC, indique un communiqué. La convention sur ce financement a été signée jeudi dernier à Kinshasa par Madame Anne Encontre, représentant régional du HCR, et Madame Nicole Fischer, chef des coopérations AI à la délégation de l'Union européenne.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous revenons encore sur le séjour du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Avant de quitter Kinshasa, Antonio Guterres a accordé une interview à Radio Okapi. Le magazine des Nations Unies revient sur cet entretien que le patron des Nations Unies a eu avec Kelly Coutier. Suivez.
Monsieur le secrétaire général, bonjour.
Bonjour.
C'est votre première visite en RDC depuis que vous êtes...
Depuis que je suis secrétaire général, oui.
Voilà, justement,
j'ai fait beaucoup de visites en RDC en tant que haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Merci. Vous avez commencé cette visite par la province du Nord Kivu. Pourquoi le Nord Kivu?
Parce que c'est une province où il y a des problèmes très sérieux, peut-être les problèmes les plus sérieux de sécurité, maintenant aggravés par la présence de l'ADF, avec ces attaques terroristes qui sont absolument intolérables, qu'on doit condamner fermement, dont la population est victime, parce que c'est aussi une province qui est l'épicentre d'une épidémie extrêmement sérieuse et grave, l'Ebola, et qu'il faut combattre en toute efficacité. Et je voulais démontrer ma solidarité au peuple congolais, et du point de vue de la sécurité, et du point de vue des besoins de développement économique et social, et du point de vue de l'action humanitaire, et en particulier du combat contre les maladies qui affligent le peuple congolais, soit-il le rougeole, le malaria, le choléra, mais aussi l'Ebola, qui correspond à une menace particulièrement grave à cause de sa facilité de transmission humaine, qui peut à un moment donné se répandre dans tout le Congo, ou même à l'extérieur du Congo, et qu'il faut éradiquer. Et je voulais montrer, comme je vous ai dit, toute ma solidarité au peuple congolais et en particulier au Nord Kivu qui subit tous ces problèmes.
Alors vous avez été sur terrain, vous avez palpé du doigt les réalités de cette province, notamment l'insécurité causée par les groupes armés et Ebola, vous venez de le dire tout à l'heure. Comment les Nations Unies comptent-elles aider la RDC à éradiquer cette maladie?
Premièrement, il y a une réponse robuste du point de vue de l'Organisation mondiale de la santé et des autres agences des Nations Unies et des autorités congolaises et des organisations non gouvernementales. J'ai vu des centres de traitement, des centres de dépistage. Il y a tout un travail de prévention qui est fait. Il y a des mesures de santé publique qui sont prises. Vraiment, c'est une réponse extrêmement robuste et avec un courage et une dédication du personnel de santé remarquable. Regardez que beaucoup d'entre eux travaillent dans des zones où il y a des attaques et ils continuent à y travailler. Quelques-uns ont déjà payé avec leur vie le travail pour l'éradication de l'Ebola. Mais il y a des difficultés qui sont réelles, des difficultés qui sont liées aux mouvements de population, qui sont très forts dans la région, mais aussi à la question de l'accès et de la sécurité. Et c'est pour ça qu'il faut, on ne peut pas voir l'Ebola d'une façon isolée, il faut la voir dans le contexte que j'espère, et on a beaucoup discuté avec le président de la République, les autorités congolaises et nos forces elles-mêmes. Comment est-ce qu'on peut faire que notamment la brigade d'intervention soit plus active dans le combat contre l'ADF et que la coopération entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo puisse créer des conditions pour une plus grande efficacité dans le combat à ce groupe qui est la menace la plus sérieuse pour les populations du Nord Kivu.
Malgré la présence des Nations Unies ou des forces de la MONUSCO dans cette partie du pays, la paix n'est pas totalement revenue en RDC, particulièrement à Beni. Au Nord Kivu, à cause de l'activisme, vous l'avez dit vous-même, des groupes armés, principalement les EDF, les Nations Unies, vous l'avez dit, va essayer de renforcer la coopération et être plus actif sur le terrain. Concrètement, comment ça va se passer?
J'espère qu'on puisse, notamment par des opérations conjointes et en tenant compte de toutes les potentialités et de la MONUSCO et des forces armées de la RDC, qu'on puisse être bien plus efficace dans le combat à l'ADF et en même temps qu'on puisse lancer ou bien renforcer, parce qu'elles sont déjà présentes, face à d'autres groupes armés, des opérations de démobilisation, désarmement et réintégration qui sont absolument nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. Et je fais un appel aux Congolais qui sont dans ces groupes pour qu'ils puissent regarder ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Il y a un vent d'espoir qui souffle et qu'ils comprennent le besoin de se démobiliser, se désarmer et s'intégrer dans les communautés pour participer dans la construction du futur de la RDC.
Rendre la MONUSCO plus utile aux yeux des Congolais, est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez que cette mission a eu quelques difficultés pour mener à bien sa mission?
Toutes les missions ont des difficultés, rien n'est parfait. Je crois que la MONUSCO a fait un travail extrêmement important. Je me demande ce qui serait passé en RDC si la MONUSCO n'existait pas. D'ailleurs, j'ai eu l'expérience très intéressante en parlant avec des personnes qui sont critiques du travail de la MONUSCO. On disait, ben, on peut sortir. Ils disaient, non, nous sommes critiques, mais ne partez pas. Ça veut dire que la MONUSCO a contribué, en tout cas, à éviter le pire dans la RDC, et je crois que ce qu'il nous faut, c'est vraiment améliorer son travail. Il y a une révision stratégique qui est en cours. J'espère qu'elle puisse nous aider à trouver des façons de travailler encore mieux. Et j'espère qu'un jour, en étroite coopération avec le gouvernement de la RDC, un jour ce soit possible à la RDC de ne pas avoir plus besoin d'une mission des Nations Unies et avoir les rapports naturels, normaux avec les Nations Unies, avec une équipe de pays, comme c'est le cas dans la plupart des pays où, heureusement, les conflits ont déjà été complètement annulé.
Alors, comment sont les relations aujourd'hui entre les FRDC et la MONUSCO? On sait que du temps de l'ancien président Joseph Kabila, les relations entre New York et Kinshasa n'étaient pas au beau fixe. Quelles sont les relations aujourd'hui entre la MONUSCO?
La réunion que j'ai eue aujourd'hui avec M. le président de la République a été une réunion excellente. Je crois qu'il y a un esprit de coopération excellent et d'un côté et de l'autre. Et j'ai été avec le chef d'état-major des forces armées. Je n'ai aucune doute qu'on va travailler ensemble pour améliorer à fond notre coopération et pour être bien plus efficace dans tous les domaines.
Qu'est-ce qu'on retient de votre rencontre avec le président Félix Tshisekedi?
Je crois qu'une volonté profonde de conduire les réformes et les initiatives nécessaires pour faire que la République démocratique du Congo puisse retrouver la paix et puissent, avec un programme de développement économique, social, des services sociaux de base, créer les conditions pour faire que les richesses énormes du Congo puissent finalement bénéficier la population.
Une dernière question avant de nous séparer, monsieur le secrétaire général. Quel est l'avenir de la MONUSCO après cette alternance pacifique en RDC?
Un jour, je crois, et je l'espère, en étroite coopération entre nous et le gouvernement de la RDC, la MONUSCO finira son travail. Pour le moment, ce n'est pas la question qui se pose. La question qui se pose, c'est une révision stratégique pour qu'elle puisse travailler encore mieux. Et il y aura naturellement, progressivement, des ajustements à faire, ce qui est naturel. Mais je crois que pour le moment, la MONUSCO a un rôle à jouer, d'accord avec la volonté du peuple congolais, et qu'il faut améliorer ce rôle pour le bénéfice de tout le monde.
Je vous remercie.
Merci.
Le secrétaire général de l'ONU n'était pas seul pendant son séjour en RDC. Il était accompagné notamment de son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. À l'étape des Beni, Wang Xing a rencontré la société civile du Nord Kivu. Au centre de ses entretiens, la problématique de l'insécurité dans cette région du pays. Kizitobin Angi, représentant de cette société civile, a fait les points des préoccupations soumises à l'envoyé spécial d'Antonio Guterres. C'était au micro de Sekondi Katondolo.
Nous avons demandé à la voix spéciale du secrétaire des Nations Unies de nous aider à renforcer les FIB, donc les éléments des FIB qui sont dans les opérations militaires contre les ADF. Nous avons également demandé à ce que l'on puisse créer un mécanisme de surveillance des produits agricoles et industriels, parce que nous avons senti que lors des massacres à Beni, c'est surtout pendant la période des récoltes. Nous avons pensé que ce sont des groupes armés qui profitent, après avoir chassé la population dans leurs champs, ils récoltent ce qu'ils n'ont pas semé et malheureusement, ils les amènent dans les pays voisins. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un mécanisme de contrôle des civils pour qu'on puisse réellement savoir de l'identité et de la provenance de ces produits, l'agricole et le ciel. Et nous avons également aussi demandé par rapport à la riposte que les Nations Unies doivent également continuer à appuyer la RDC surtout, pour que la RDC soit capable d'éradiquer définitivement Ebola.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations des maintiens des paix, était aussi dans la suite d'Antonio Guterres et avait prolongé la mission au sud Kivu. À la fin de son séjour dans cette province, il a répondu à cette question.
Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, bonjour et dites-nous, c'est quoi l'essentiel de votre mission dans la province du Sud Kivu?
D'abord, je remercie son Excellence le gouverneur de la province du Sud Kivu, monsieur le président de l'Assemblée et tous les responsables de cette belle province et aussi son peuple de l'accueil. C'est une visite qui vise à manifester que la MONUSCO reste très engagée pour aider la province du Sud Kivu et le peuple de cette province à surmonter les défis qui existent, notamment dans le domaine de la sécurité, mais aussi aider la population du Sud Kivu à saisir les opportunités qui s'offrent aujourd'hui, car avec cette transition importante qu'a connue au niveau national la République démocratique du Congo, il y a eu de nouvelles perspectives qui se sont ouvertes. Et c'est la raison pour laquelle le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était en République démocratique du Congo ces derniers jours, pour manifester la solidarité des Nations Unies avec le peuple congolais et notre détermination à nous engager pour que la République démocratique du Congo, le peuple congolais, puisse faire de ses perspectives une réalité, que le pays retrouve le chemin de la paix.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Un rendez-vous à retenir cette semaine dans l'espace des agences onusiennes en RDC du 9 au 12 septembre, donc à partir de ce lundi. ONU Habitat organise en partenariat avec Expo Béton un symposium national sur le thème du foncier rural au nouvel agenda urbain en RDC. Et c'est la fin de cette émission qui a été supervisée par Martin Seboujangwe. Jean-Pierre Elali Coco était à la coordination et au reportage. Honoré Missenga Kalala, la réalisation également au reportage. Moi, c'est Julie Ngala et je vous l'ai présenté grâce à l'assistance technique de Bob Landou. Bonne suite des programmes sur Radio Okapi. Excellente journée dominicale à tous.